au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Oui, nous sommes jeudi, c'est le 12 février. J'espère que vous avez passé une belle journée sous le soleil de Lanaudière. À l'émission aujourd'hui avec Jacques Plante, il sera question de Bernard Drainville, également de Charles Milliard. On va parler aussi avec le maire de Berthierville, Pierre Lahaye. Il sera question de l'aréna Joanie Rochette, qui est à vendre du côté de Berthierville. William Plante et Ariane Ouellette seront avec nous. Ils viennent d'inaugurer une nouvelle franchise de la fromagerie Victoria à Joliette. Également, Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption, il sera question des municipalités là, qui perdent des ressources en lien avec le fameux PEC. Mais tout d'abord, pour débuter cette émission, l'ex-juge Jacques Fournier qui a remis son rapport commandé par le Parti libéral là, sur cette histoire de brownies qui a éclaboussé le PLQ et Pierre Jubinville en discute avec notre analyste politique Mathieu Bélanger. On parle, entre autres, de la valeur réelle de cette enquête de l'ex-juge Jacques Fournier.
L'ex-juge Fournier a remis son rapport. Certains médias titraient Pablo Rodriguez blanchi. Est-ce qu'on peut être aussi affirmatif, Mathieu Bélanger?
Non, pas complètement. C'est-à-dire qu'avec les informations que cet ex-juge-là est arrivé à cette conclusion-là. Mais il y a d'autres enquêtes qui ont lieu par des acteurs indépendants, parce que rappelons que ce juge-là a vu ce mandat-là du Parti libéral du Québec. Pas pour dire que nécessairement allait faire un travail bâclé ou qu'il avait une commande de blanchir Pablo Rodriguez. Ça serait présomptueux de dire ça, un peu cynique. Cependant, il y a d'autres acteurs qui ont plus de pouvoir, notamment là, d'enquête, de coercition pour des témoins, par exemple, ou d'obtenir des documents, notamment l'UPAC, l'Unité permanente anticorruption. Il y a une enquête aussi de la commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale qui font enquête sur ça, et donc on pourrait avoir d'autres conclusions à d'autres moments, particulièrement évidemment ce qui concerne l'UPAC, qui a un poids un peu plus lourd. Essentiellement, surtout, la conclusion de Maître Fournier est de dire qu'il n'a pas réussi à démontrer que les fameux textos donc dans lesquels on faisait état de brownies étaient des textos réels, que ça semblait plutôt être arrangé. Le Journal de Montréal qui a publié ces informations-là continue à prétendre, avec les informations qu'il possède, que les textos sont légitimes, mais n'a pas voulu, pour des raisons habituelles de vouloir protéger les sources, dire justement d'où le Journal de Montréal avait obtenu ces sources-là, ces textos-là, ce qui a empêché l'ex-juge de faire complètement son enquête. Donc, c'est un rapport qui est mi-figue, mi-raisin, finalement, qui blanchit en partie, oui, Pablo Rodriguez, qui permet de respirer un peu mieux, mais pas complètement, parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent et qui ne vont pas, c'est sûr, complètement rassurer les partis d'opposition qui vont pouvoir continuer, d'opposition au Parti libéral, qui vont pouvoir continuer à le critiquer, notamment lors de la prochaine campagne électorale qui va arriver à un moment ou à un autre cette année.
Ce qui est quand même étonnant, c'est que l'ex-juge s'est qualifié de chien de chasse édenté. Donc, il n'y avait pas vraiment de pouvoir d'assignation ou de perquisition. On se demande ce que vaut le rapport.
En fait, c'est ça toujours le problème avec ces enquêtes-là. C'est une enquête interne, même si demandé à quelqu'un d'autre, c'est une enquête interne du Parti libéral. C'est pas une enquête policière ou justement avec des pouvoirs d'assignation. C'est j'essaie d'obtenir un peu les informations qui peuvent m'arriver, qu'on veut bien me donner, puis j'analyse ça objectivement. C'est effectivement toujours limité. C'est ce qui fait que ça l'aide, le Parti libéral, qui paraît un peu mieux quand même, qui permet de d'écarter certaines hypothèses jusqu'à un certain point, qui soumet un doute surtout pour d'autres éléments. Donc, par exemple, sur la validité, la réalité de ces textos-là faisant état de brownies, mais qui ne va pas calmer la situation, qui ne va pas démontrer hors de tout doute raisonnable que M. Rodriguez ou surtout des gens de son équipe étaient sans faute dans cette situation-là. Il y aura encore d'autres enquêtes qui vont peut-être arriver à des résultats différents. L'avenir le dira.
C'est aujourd'hui la fin de la course à la direction au PLQ. Je serais tenté de vous demander quel avenir pour le Parti libéral.
Ça reste à voir. Donc, Charles Milliard prendra bientôt selle comme chef du Parti libéral du Québec. Il est peu connu par la population, ce qui est un inconvénient et parfois surtout un avantage. Inconvénient, peu connu, c'est faut gagner cette notoriété-là. Mais en même temps, comme il est peu connu, les gens peuvent projeter sur lui ce qu'ils pensent qu'il doit être en fonction de ce qu'eux-mêmes veulent qu'il soit. Puis on l'a vu que depuis qu'il est devenu chef, le Parti libéral a remonté dans les sondages. Évidemment, faire attention, on a connu le même phénomène avec Pablo Rodriguez qui a fait monter le Parti libéral dans les sondages avant que ça redescende. C'est un néophyte quand même en politique, une certaine expérience, mais en politique partisane, disons, de cette ampleur-là, c'est un néophyte et qui est actuellement pas élu à l'Assemblée nationale du Québec et donc une visibilité plus restreinte. C'est souvent difficile dans ce contexte-là d'être capable de gagner, justement, de faire valoir ses idées. Et malheureusement pour lui, les deux courses à la chefferie à laquelle il a participé, ben ça lui a pas donné l'occasion, ou ne peut pas être capable de le faire, de son propre chef, de faire part de ses idées. Que représente le Parti libéral du Québec aujourd'hui, en 2026? On ne le sait pas, outre à être contre l'indépendance du Québec, ça c'est assez clair, mais pour le reste, on ne le sait pas. Et c'est ça le travail qui doit être fait. Et à partir du moment où, à la CAQ, bientôt aussi, dans deux mois, il y aura une nouvelle personne qui va diriger cette formation politique-là, ça va créer une autre possibilité de renouveau en dehors du Parti libéral du Québec. Et il n'aura pas le monopole de cette nouveauté-là. Ce qui va rendre plus difficile aussi son avenir politique, puis le cas de remonter la formation politique. Donc, beaucoup d'inconnus, en fait. Et c'est assez inusité. On a déjà mentionné d'avoir les deux partis politiques les plus forts à l'Assemblée nationale du Québec, la CAQ et le Parti libéral du Québec, en course à la chefferie en même temps, si peu de temps avant les élections. Donc, quel avenir pour le Parti libéral? L'avenir le dira, c'est un peu cliché comme phrase, mais dans ce contexte-ci, c'est particulièrement vrai. Ça peut aller dans tous les sens pour de vrai.
C'était notre analyste politique Mathieu Bélanger avec qui Pierre Jubinville s'est entretenu un peu plus tôt. On aura l'occasion de revenir justement sur le Parti libéral et Charles Milliard un peu plus tard au cours de l'émission avec Jacques Plante. Dans un instant, le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Crabtree Dépanneur du Centre, Dépanneur Crabtree Vidéo, Marché Beaulieu, l'Expert Dépanneur. À Notre-Dame-de-Lourdes, dépanneur Gabi, les délices de Lourdes. À Sainte-Élisabeth, dépanneur chez Napol. À Saint-Félix-de-Valois, dépanneur Estelle. Métro Boucher, Tabagie Saint-Félix, dépanneur Proxy Extra. Et marché IG à Rainville. À Saint-Jean-de-Mata, supermarché Métro, l'Expert dépanneur. Marché Express Ultramar, dépanneur du Lac-Noir. Et à Saint-Damien, marché Métro Imri, dépanneur Le Rendez-vous. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Youhou! J'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
CFNJ. Avec vous partout, via l'application CFNJ, sur vos appareils Android et Apple.
Besoin d'une sieste profonde? Étendez-vous sur votre nouveau matelas confortable de chez Ameublement SJ Dion. Ameublement SJ Dion, c'est 3 étages de meubles, matelas, électroménagers et des articles pour décorer les pièces de votre maison. Nos conseillers en ameublement ont un talent naturel. Ils trouveront le beau qu'il vous faut. Ameublement SJ Dion, 1 rue Gauthier-Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Chez nous, c'est tellement chez vous depuis 60 ans. 450-759-1409.
Lanaudière PM, affaires municipales.
Bon, le temps que le gouvernement de la CAQ mette en place des solutions pour pallier à l'incertitude qui est liée au cafouillage dans les programmes d'accueil des immigrants temporaires, il y a des municipalités puis des entreprises là, qui vont perdre des ressources. Et Régent Turgeon en a discuté avec le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau.
Sébastien Nadeau, maire de l'Assomption. Réaction initiale là, de M. Nadeau à l'évolution du programme de l'expérience québécoise, on reçoit ça comment?
Bien, heureux des ouvertures qui semblent se créer. On a hâte de voir les conclusions finales. Ça touche énormément d'humains, des gens qui ont pris beaucoup de risques en changeant de vie comme ça, en quittant un pays, en vendant tous les biens et en croyant à la promesse québécoise. Alors, moi, je pense que si on est capable de garder ces gens-là, au moins ceux qui sont arrivés, la clause grand-père, c'est une idée que j'aime beaucoup. Je pense que ce serait important qu'on puisse les préserver puis leur offrir une meilleure qualité de vie, une plus de garantie de qualité de vie.
Est-ce qu'on pouvait appréhender la fin de ce programme-là?
Bien, on sentait beaucoup la pression sociale. C'est tous les milieux qui se mobilisent. On a vu tant le patronat, tant les syndicats, on a vu les municipalités. Moi, c'est fréquent, là, pratiquement tous les jours, j'entends parler d'entreprises qui ont des employés qui sont à risque, des employés qui sont un peu déboussolés par tout ce qui se passe. On a chez nous même, à la zone Actec, on a 3 employés sur 9. C'est des gens qui sont diplômés universitaires. C'est des gens qui, au fil des ans, ont développé des réseaux à travers le monde dans ce qu'on fait avec les technologies de l'agriculture. Alors, de perdre ces ressources-là, c'est pas bon pour la zone Actec, c'est pas bon pour l'entreprise, mais c'est pas bon aussi pour ces gens-là. C'est des compétences extraordinaires qu'on va perdre.
Est-ce qu'on peut les remplacer, ces gens-là? Est-ce qu'on a des travailleurs qui seraient prêts à prendre le relais et qui sont de souche québécoise?
Ben, écoutez, il y a un vieux dicton qui dit que personne n'est irremplaçable, mais d'un autre côté, on perd énormément d'expérience. Quand vous avez des nouveaux employés, c'est quand même des il y a plusieurs emplois que c'est des compétences qui sont particulières. Alors, il faut redévelopper ces gens-là, il faut redévelopper les compétences, il faut redévelopper les réseaux de contact. Alors, moi, je trouve que c'est un pas en arrière. C'est prendre du recul pour nos entreprises ici. Et ce temps-là, ben, c'est sûr que dans quelques années, on aura remplacé. Mais en attendant, on va être moins efficace.
Le PEC doit être remplacé par leur programme de sélection des travailleurs qualifiés. On voit ça comment? Est-ce que ça peut être bénéfique pour la MRC, puis même la zone Agtech?
Ben oui, effectivement, je ne crois pas que cette solution... Je pense que cette solution peut être intéressante. Je pense que le défi qu'on a, c'est de faire un transfert qui est sain entre les deux. Ne perdons pas les compétences qu'on a acquises. Okay. Faisons la transition ensuite. Ben, rentrons plus de nouveaux immigrants sous le PEC. Rentrons au Canada, au Québec, sous le nouveau programme. Mais au moins, on va respecter les gens qui sont déjà ici.
On disait tantôt, puis effectivement, vous aviez raison, il y a des scénarios de transition qui sont envisagés par M. Roberge. Est-ce que c'est de gagner du temps que de faire ça?
Bien, je pense qu'il entend, puis il n'a pas le choix d'entendre. La pression est trop forte de tous les milieux. Donc, je pense pas que c'est un échappatoire. Je pense pas que c'est de gagner du temps. Moi, je pense qu'il réalise l'impact de ses décisions, puis qu'il a l'intelligence de s'adapter.
L'Union des municipalités a lancé le mouvement des Cœurs bleus en soutien justement aux personnes affectées par l'abolition du PEC. C'était même une initiative donc de l'Union des municipalités du Québec. Une bonne initiative.
Oh, excellente initiative. Dès qu'on a vu ça au niveau de la Ville de l'Assomption, on a suivi. J'ai vu aussi les collègues de la Ville de Repentigny qui ont effectué ça. Pratiquement toutes les villes qui ont des employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers de cette compétence-là, ben, on est tous touchés. Fait qu'il y a une belle solidarité, il y a un bel élan de solidarité. Je félicite l'UMQ pour l'initiative.
Plus fondamentalement, M. Nadeau, nos politiques d'immigration, c'est-tu à revoir, c'est-tu à simplifier? Il me semble que c'est complexe.
C'est tout à fait complexe, hein? Mais il faut savoir aussi qu'on est la seule province qui a autant de pouvoir en immigration. Moi, je pense que c'est un bon modèle que les provinces contrôlent leur immigration. Je salue ça. Maintenant, il y a énormément... Pour arriver à un bon programme, il faut convaincre énormément de gens. Il y a trop de paliers, je pense, dans ce secteur-là. Je pense que ça devrait être une compétence qui est provinciale. Le Québec a fait d'énormes pas dans les dernières années, mais on n'est pas encore arrivé à destination.
Je reviens rapidement sur la zone Actec. 3 de vos 9 employés pourraient partir. Est-ce que ça compromet le travail de la zone Actec?
Non. Mais est-ce que ça ralentit? La réponse est oui. C'est des gens qu'on ne veut pas perdre. Il y a quelque chose qui est drôle là-dedans. C'est qu'il y a une dame, entre autres, qui est du Maroc, qui arrive chez nous avec un beau réseau, qui aide directement qui atteint les objectifs de la zone Actec, mais là serait condamné à s'en aller travailler à Ottawa, juste l'autre côté de la frontière. Donc on perdrait des compétences. Fait que c'est le genre d'exemple qui nous apparaissent complètement illogiques. C'est ça. Je pense qu'il faut les garder chez nous.
Régent Turgeon qui s'entretenait avec le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau.
Lanaudière PM. Affaires.
La fromagerie Victoria a inauguré à Joliette aujourd'hui sa 29e franchise au Québec et c'est le groupe Ouellette, les franchisés, là, qui en sont à leur 8e franchise, dont celle qui a été ouverte il y a quelques années du côté de Berthierville. La fromagerie a été fondée en 1946 à Victoriaville. Semble-t-il que c'est eux qui ont inventé la poutine du côté de Victo, évidemment. Avec près de 30 succursales en 2025, la fromagerie Victoria offre des opportunités de franchise avec formation complète de 6 semaines et du soutien. Aussi, Michel Arnoir a rencontré William Plante, qui est gestionnaire, et Ariane Ouellette, la directrice générale. Tous les deux là, font partie du groupe Ouellette, franchisé de la fromagerie Victoria.
Monsieur Plante, tout d'abord, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de l'expansion du groupe de Victoria. C'est quand même pas rien. Vous avez combien de succursales à travers le Québec?
Écoute, faut noter qu'on est franchisé, non le franchiseur. En tant que franchisé, moi, on a 6 avec mon associé David Ouellette du groupe Ouellette. Le groupe Ouellette détient 8 succursales. On a déjà Berthierville. Joliette, pour nous, c'est l'expansion, la suite logique, comme on a dit, pour Berthierville, pour notre expansion dans la région.
Au total, fromagerie Victoria, là, c'est quand même un bon nombre. Là.
Oui, il va être rendu à 29-30, puis ça continue de grandir. À chaque année, là, on voit des franchises qui vont s'ouvrir dans toutes les grandes villes du Québec.
La particularité de Joliette, c'est quoi?
Je vous dirais que c'est la grande attente. Elle est tellement attendue, cette fromagerie Victoria, là, que les gens sont excités, ils savent qu'on s'en vient, puis ils sont prêts à nous recevoir. C'est ça qui est le fun. On est avec des opérateurs de la région, donc c'est sûr que ça aide beaucoup à bien s'implanter dans la région.
Comment c'est arrivé dans votre vie, vous, à la fromagerie Victoria? Comment ça s'est présenté à vous?
On était de base avec... on a aussi des franchises Vidéotron, puis Fromagerie Victoria, c'était un projet complètement différent pour nous sortir de notre zone de confort. On a commencé avec une à Trois-Rivières, puis après ça, on est bien aimé le franchiseur, on a une belle proximité avec eux, puis on a juste continué dans le domaine de la restauration. On a un coup de cœur pour le fromage.
Il y a une réponse du public assez extraordinaire pour les fromageries Victoria.
Oui, écoute, c'est une business familiale. C'est des restaurants de volume qui sont ouverts 7 jours sur 7 à l'année. Donc, c'est sûr que l'attente est grande. Dans la région, Berthier-Joliette, c'est quand même proche. Donc, il y a une proximité. Donc, la clientèle de Berthierville, c'est du monde de GR qui sont venus à Berthier. Là, Joliette, c'est pour ça qu'on est attendu. Ils nous connaissent déjà, connaissent la marque. Vous l'avez dit tantôt, on est en expansion. Donc, c'est sûr qu'à Joliette, on savait qu'on était attendu, puis on vient d'ouvrir les portes, puis il y a déjà beaucoup de monde.
De votre côté, est-ce qu'il y a une culture d'entreprise propre à Joliette ou dans Lanaudière? Quel type d'employeur vous êtes?
On est des employeurs qui sont chaleureux, qui sont invitants, nos critères premiers sont la confiance et le respect. Puis, comme Mathieu exprime toujours très bien, donne-moi ton 110%, puis je vais te donner mon 110%. On est des employeurs qui ont pas peur de se salir les mains, je dirais. Donc, n'importe quoi qu'on demande de faire, on va le faire. Puis, on va être présent. Puis, on fait des longues heures, mais on a quand même toujours le sourire au visage. Donc, il y a de la bonne humeur aussi. Puis, ce qu'on dit toujours, c'est que un client qui rentre dans une fromagerie, Victoria, les employés ont du fun, ben ça inspire confiance, puis famille, puis plaisir, en fait.
Vous avez dit le mot confiance tantôt. J'ai pu constater que vous avez une belle confiance dans votre équipe.
Oui, c'est sûr que on a confiance en tout le monde. On a engagé des gens qui donnent leur 110%, puis nous, c'est tout ce qui compte, en fait. Donne-moi tout ce que t'as, puis on va apprendre à vivre avec, puis on va faire du mieux qu'on peut.
Vous avez différents produits. Est-ce que vous encouragez l'achat local?
Oui, écoute, il y a plusieurs produits à la base de Fromagerie Victoria qui vont être des fournisseurs locaux, des fournisseurs du Québec. C'est sûr que la marque Fromagerie Victoria vient du Québec. C'est originaire de Victo et Warwick. Donc, c'est sûr que pour nous, l'achat local est primordial.
On dit toujours que la véritable poutine vient de Drummondville, de Victoriaville, dans ce coin-là. Est-ce que c'est vous les inventeurs?
Je vais dire oui. Mais écoute, c'est un long, long, long débat. Si vous allez dans le bout de Victo, Drummond, Warwick et autres, écoute, c'est des discussions, je pense, qui vont toujours être d'actualité. Mais
le but d'Alain Côté.
Là, on va parler d'Olympique, on va parler de hockey. Non, mais écoute, ça va être des discussions, je pense, qui vont perdurer dans le temps. Comme le but d'Alain Côté, la poutine va perdurer dans le temps. Qui l'a commencé? C'est parti de où? Et où la meilleure? Puis on regarde, il y a vraiment une effervescence dans les dernières années sur la poutine avec les nouveaux reviews et autres. Il y a une belle... Il y a une belle notoriété de la poutine qui se fait au Québec, puis on est fiers d'en faire partie, Fromagerie Victoria.
Vous, votre groupe, vous en avez maintenant 6, vous me disiez tantôt, 8?
Oui, le groupe Ouellette, avec mon associé David Ouellette, on a 8 Fromagerie Victoria. Moi, de ma part, avec David, j'en ai 6. Mais on l'a dit tantôt, vous l'avez dit, vous avez l'air confiant, c'est Fromagerie Victoria, c'est très familial. Donc, à l'interne, nous aussi, c'est très familial, c'est très proche. On a des franchisés locaux, on connaît notre monde, on connaît la région. C'est important pour nous autres. Puis le groupe Ouellette est en constante expansion. Donc, prochaine ville à venir, mais là, je peux pas dire des scoops aujourd'hui.
Alors vous, c'est votre première ouverture. Vous vous souhaitez quoi pour l'avenir?
Hey, on se souhaite du succès. Vraiment, là, moi, c'est tout ce que je veux. Hier, j'étais un peu anxieuse face à la journée d'aujourd'hui. On dirait que je voulais que tout se passe bien. Puis je veux que les clients soient bien servis, qu'il y ait une bonne première impression de nous. Mais finalement, avec l'équipe qu'on a, je me suis calmée assez rapidement. Tout va bien se passer. Puis on se souhaite du succès. Puis que la population de Joliette soit contente qu'on soit ici.
C'est Ariane Ouellette qu'on vient d'entendre. On a aussi eu l'occasion d'écouter William Plante. Ils sont tous les deux de cette nouvelle succursale de la fromagerie Victoria qui a été inaugurée aujourd'hui, boulevard Firestone, à Joliette.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
La métropolitaine Est pour Charles de Gaulle, ça devient plutôt dense à partir de Marien, mais quand même, on roule assez facilement. Je regarde secteur Henri Bourassa, oui, quand même, ça roule nombreux, mais on roule assez bien. Pour la suite des choses, on traverse aisément la rivière des Prairies, secteur Charlemagne-Repentigny, pas si mal, un peu plus nombreux, là, secteur industriel. Vous mentionnez la 341. Entre la 40 et la rivière L'Assomption, c'est très lourd actuellement. Pont-le-Gardeur, accès facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame, 25 Nord, c'est lent depuis la rivière des Prairies. Et ce, jusqu'à environ 500 mètres passé, la jonction avec la 440, secteur Île-Saint-Jean-Terrebonne-Mascouche, oui, ça va bien. Pont Sophie-Masson, un petit peu dense à l'approche, sinon la traversée est facile vers Terrebonne. Et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40, direction Est, c'est un peu plus lourd à partir de la montée des Pionniers pour la 40 et en direction ouest, un petit peu plus nombreux, secteur de la montée du Mai. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte pointe, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Pour la Saint-Valentin, CFNJ vous envoie de l'amour et vous envoie aussi au resto. Jusqu'au 14 février, repérez l'indice du jour mentionné par vos animateurs. Puis inscrivez-vous à cfnj.net, section concours. Le jour de la Saint-Valentin, vous pourriez gagner l'un des 4 certificats cadeaux de 100$ chacun à l'échappée Grill et Bar Sportif de Joliette.
Une inscription possible par jour jusqu'au 14 février à 13h.
Concours réservé aux membres. Pour le devenir, voyez tous les détails sur cfnj.net.
Écoutons les conseils de Cassandra Lalande, denturologiste.
Si vous devez changer ou avoir une prothèse partielle, assurez-vous d'avoir procédé à un examen nettoyage chez votre dentiste au cours de la dernière année. S'il y a des réparations à effectuer sur vos dents naturelles, assurez-vous également que celles-ci soient complétées avant la visite chez le denturologiste. De cette façon, des délais supplémentaires seront évités et nous nous assurons que les dents sollicitées seront saines.
C'était un message du Centre de denturologie Cassandra Lalande, 175 rue de la Visitation, bureau 100, à Saint-Charles-Borromée, 450-756-1935.
Besoin d'une sieste profonde? Étendez-vous sur votre nouveau matelas confortable de chez Ameublement SJ Dion. Ameublement SJ Dion, c'est 3 étages de meubles, matelas, électroménagers et des articles pour décorer les pièces de votre maison. Nos conseillers en ameublement ont un talent naturel. Ils trouveront le beau qu'il vous faut.
Ameublement SJ Dion, 1 rue Gautier Nord à Notre-Dame-des-Prairies. Chez nous, c'est tellement chez vous depuis 60 ans. 450-759-1409.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks S 2026 à traction intégrale en location 60 mois à partir de seulement 398 $ plus taxes par mois sans aucun compte initial. Chez Joliette Nissan.
L'actualité de ce jeudi 12 février en manchette. Air Transat abandonne la Floride. Nomination importante au 6 de la Naudière et les libéraux se disent prêts à passer à autre chose. Et tout d'abord, Pierre Jubinville, plusieurs destinations américaines de moins en moins attrayantes.
Oui, la Floride surtout, Claude. Air Transat a annoncé qu'elle cessera ce printemps ses vols à destination de cet État. Les agents de voyage ont été informés ce midi. Et les derniers vols à partir de Montréal et de Québec pour la Floride prendront fin en mai et juin. Il ne restera que Porter et Air Canada pour se rendre là-bas, la Floride a perdu de la popularité, comme l'explique le vice-président de l'Association des agents de voyage du Québec, Éric Boissonneau.
Ça enlève de la concurrence, puis Transat, c'est vraiment le chouchou québécois. Donc, les gens adorent voyager avec eux, c'est reconnu, mais là, ils s'enlèvent du marché. C'est trop de concurrence, les prix, il y a de moins en moins d'affluence. Quand on regardait les chiffres là, de l'Institut de recherche, on était dans les 25, 30, 35 de moins de voyageurs.
Faut pas oublier Claude le facteur Donald Trump aussi.
Oui, et puis Air Transat qui offre un service en français par rapport à celui d'Air Canada qui, des fois, peut être douteux.
Oui. Bon. En effet.
Après le rapport du juge Fournier, les libéraux qui sont prêts à regarder de l'avant.
Oui, le chef intérimaire du Parti libéral, Marc Tanguay, estime que le rapport Fournier lave la réputation de Pablo Rodriguez. Il croit cependant que le prochain chef aura toute la légitimité pour diriger le parti. Louis Lacroix.
De son propre aveu, les pouvoirs d'enquête du juge Jacques Fournier étaient limités.
C'est pas un procès que j'ai fait.
Pourtant, le chef libéral Marc Tanguay croit que ses conclusions lavent la réputation de Pablo Rodriguez.
Le rapport vient confirmer cela. Encore une fois, c'est un travail sérieux.
Même chose pour le député André Fortin.
Monsieur Rodriguez n'était pas au courant d'agissements irréguliers.
Pourtant, Monsieur Rodriguez a été contraint de laisser son poste. Qu'on lui redonne, réclame avec ironie le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon.
Ça n'arrivera pas parce qu'il y a d'autres enquêtes avec pas mal plus de moyens.
Pendant ce temps, les libéraux accueilleront en fin de semaine un nouveau chef. Quelle sera son autorité?
Je vais dire oui, chef. Moi, je suis fait de même.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles, Québec.
Nomination importante, Pierre, maintenant, au 6 de la Naudière.
Oui, c'est Marie-Édith Fontaine qui devient adjointe au PDG du 6, Philippe Étier, pour les relations avec les communautés autochtones. Madame Fontaine est infirmière auxiliaire au CHDL depuis 2003. Elle jouait un rôle de pont culturel pour établir une relation de confiance entre les usagers de la communauté autochtone et le personnel soignant. Marie-Édith Fontaine a aussi occupé des fonctions communautaires, notamment aux services sociaux Atikamekw-Onikam de Manawan.
La réputation du transporteur public Exo en prend pour son rhume.
Oui, mais la compagnie défend son modèle d'affaires, assure qu'avoir recours à la sous-traitance permet d'offrir quand même un bon service. La société de transport réagit à une étude menée par l'Institut de recherche d'information, l'IRIS. Ceci démontre que l'augmentation du recours à la sous-traitance dans le transport en commun affecte la qualité des services. Selon l'étude, Exo a affiché un taux de bris de service deux fois plus élevé que la STM. Colin Pratt est chercheur à l'IRIS.
En moyenne, Exo, c'est environ 50 autobus par jour qui sont annoncés, mais qui sont pas opérés. Un élément qui peut expliquer pourquoi est-ce que le privé fait si mal, ben, la majorité des bris de service, quand on va voir dans le détail les données, on réalise qu'elles sont causées par un manque de personnel. Ils n'arrivent pas à embaucher, à retenir des chauffeurs.
Et maintenant, l'aréna de Berthierville, Pierre, est à vendre.
Oui, l'administration municipale engage un processus de vente de l'aréna Joanie Rochette, devenue trop coûteuse à opérer. La ville a dû mettre 1,5 million en 5 ans pour éponger le déficit et les mutualités environnantes ne semblent plus vouloir participer aux frais liés aux opérations par le biais de la tarification. Le maire Pierre Lahaye a dit souhaiter que l'aréna soit reconnue par l'État comme étant un équipement qui dessert un large bassin ce qui assurerait un certain financement.
Nous, quand on parle du pourcentage d'utilisateurs de Berthierville à 17 %, c'est vraiment énorme. C'est comme une... comment je pourrais dire ça, donc? C'est comme un naturel, c'est une évidence en réalité que ça devrait être un processus pour la CAQ.
On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir dans les prochaines minutes. On vous présentera une entrevue complète avec le maire de Berthierville, Pierre Lahaie, entrevue qui a été réalisée par François Morin. Et finalement, Pierre, la présence des agents de ICE est terminée au Minnesota.
Ouais, après le fiasco des dernières semaines et surtout la mort de deux citoyens, les agents de ICE vont quitter le Minneapolis. Mais pour la population, le retour à la normale sera long, nous dit Annie Guillemette.
Après 4000 arrestations, l'émissaire du président Trump, Tom Holman, considère que Minneapolis est désormais assez sécuritaire pour que la police locale prenne le relais.
A small footprint of personnel will remain for a period of time to close out and transition full command and control.
Même s'il ne veut plus de bain de sang, il réaffirme que l'intimidation ou l'entrave d'un agent fédéral sont criminels.
We don't want to see any more bloodshed. If you break the law, we're going to arrest you.
Pour le professeur d'Université du Minnesota, Igor Tchoukarine, la perte de confiance des citoyens va persister et la souffrance sera difficile à apaiser.
Les gens, tu sais, le stress quotidien, là.
Il reste aussi de nombreuses questions en lien avec les morts de René Nicole Good et d'Alex Pretty, criblés de balles par des agents.
On ne sait pas non plus au sujet des enquêtes, qu'est-ce qui se passe.
Le retour à la vie normale sera donc possiblement plus long que la durée de l'opération de ICE à Minneapolis. Annie Guillemette pour Cogeco Nouvelles.
Ben voilà, merci à Pierre Jubinville pour ces informations. Il est 16h37.
Lanaudière PM.
Lanaudière PM.
Claude Fournel.
CFNG.
Lanaudière PM. Affaires municipales.
Ouais, ben là, il y a l'aréna Joanie Rochette à Berthierville qui est à vente. Ça coûterait 10 millions de dollars pour la mettre aux normes et la ville, de même que les municipalités qui l'utilisent, n'ont pas les moyens. Le maire de Berthierville, Pierre Lahaie, a expliqué à François Morin qu'on est encore loin d'une transaction là, devant notaire.
Le conseil a pris une décision. Là. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'étapes de fait. OK, depuis plusieurs années, il y a eu des présentations de projets au début 2023. Il y a eu une présentation aussi de projets aussi au niveau des municipalités. On a eu des rencontres avec des attachés politiques. Il y a eu beaucoup de démarches de fait aussi au niveau des. On a essayé d'avoir des rencontres avec des ententes parce qu'il y a des municipalités qui ont eu des ententes avec le ministère de l'Éducation, le centre de services scolaires et la ville. Mais tu sais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises à. Qui était entamé, mais là, actuellement, le conseil a pris la décision de mettre l'aréna en vente.
Mais avant d'en arriver là, on veut quand même réaliser certaines démarches parce que quand on le dit souvent, là, si tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mm-hmm. On parle de 10 millions pour rénover l'aréna. C'est une facture qui, malheureusement, pèse trop lourd pour la seule municipalité de Berthierville.
Ben c'est exactement. On est 4600 de population. L'aréna en 2024 et on m'a arrondi les chiffres là, était déficitaire de 420 000 et en 2025 l'année passée 360 000. Donc ça c'est assumé. Le déficit est assumé à 100% par les résidents de Berthierville. C'est équivaut, en tout cas en 2024, c'est équivalent à peu près à 600 $. Le 100 $ d'évaluation. C'est une maison moyenne de 308 000, ce qui vaut à peu près 158 de plus sur le compte de taxes. Puis, qu'est-ce qui est un petit peu dérangeant dans la situation, c'est que 17 % des utilisateurs sont des résidents de Berthierville et 83 % sont des résidents de toutes les municipalités alentours. C'est ça qui... C'est tout ce contexte-là qui fait en sorte que je pense qu'on a un devoir. Il y a un devoir d'essayer de trouver des solutions à faire en sorte que ce déficit-là, ce soit pas juste les citoyens de Berthierville qui l'assument.
Et vos municipalités partenaires qui utilisent également l'aréna, eux autres aussi ont des limites, là.
Ben, Possiblement, il y a des décisions, là, je dirais qu'il y a encore des discussions qui se font. OK, bon, y a-tu des solutions? Oui, il y a des solutions qui pourraient peut-être être apportées, mais genre une infrastructure, faire une infrastructure, c'est pas local. Puis ça, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé. C'est sûr qu'en ce moment, le conseil a pris une décision de vente de l'aréna, donc faut continuer, comme vous dites. Il faut continuer à avoir des discussions quand même avec les municipalités qui sont alentour.
Idéalement, il faudrait que le gouvernement reconnaisse l'aréna comme étant un équipement suprarégional.
Ben, je pense que vous avez absolument raison. C'est dans cette optique-là qu'il faut aller. Je pense que toutes les villes de centralité, en général, sont prises avec des situations comme ça. Je participe au caucus des villes de centralité à l'UMQ, puis je parle à d'autres maires, puis c'est un peu la même chose. Mais sauf que nous, quand on parle du pourcentage d'utilisateurs de Berthierville à 17%, c'est vraiment énorme. C'est comme une... comment je pourrais dire ça, donc? C'est comme un naturel... C'est une évidence, en réalité, que ça devrait être une infrastructure supralocale.
Une question qui est quand même importante, on s'enligne pour un processus de vente, on fera pas une vente de feu.
Non, en réalité, mais là, on est en train de regarder quand même d'établir les conditions. Puis, ce qu'on regarde aussi, c'est ça va être publié éventuellement, puis les gens qui vont faire des appels d'offres sur le projet, ben nous autres, on va ou les appels d'intérêt, si on veut dire, eux vont avoir à décrire leur projet, puis il va y avoir une analyse de projet aussi, fait qu'on s'engage pas à, comme vous dites, à faire une vente de feu ou de faire en sorte que il y a n'importe quel projet qui soit accepté juste pour se débarrasser d'un problème. Au contraire, on prend ça vraiment au sérieux. On veut regarder vraiment, analyser chaque projet qui va être déposé.
Alors, dans le contexte actuel et surtout celui des finances publiques, est-ce qu'on garde quand même espoir d'avoir une réponse positive quelque part?
Ben, on continue. Je pense qu'il faut garder espoir. Ce serait vraiment une perte pour la région de perdre une infrastructure comme ça, qui est une infrastructure sportive qui est importante. Il y a des municipalités qui essayent, des villes qui essayent d'avoir des arénas au prix que ça coûte aujourd'hui d'avoir un aréna. Je pense d'en avoir une, c'est quelque chose qui est important. Ça a des coûts. L'idée là-dedans, c'est qu'il faut que tout le monde participe à ces coûts-là. Là. C'est pas juste, on peut pas, comme je disais tantôt, à 4600 de population avec tous les coûts maintenant qui ont explosé aussi en même temps, qui font en sorte qu'ils augmentent le déficit. On peut pas être les seuls à assumer ça. C'est ça qui est la situation. Là.
C'était le maire de Berthierville, Pierre Lahaie, donc l'aréna Joanie Rochette, là, qui est maintenant à vendre du côté de Berthierville. La municipalité veut s'en départir. Dans un instant, Jacques Plante.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
La clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez d'une fasciite plantaire, d'un oignon, d'une verrue, d'une infection ou d'une fracture? Venez rencontrer mon équipe à la clinique podiatrique de Joliette au 222 de la Visitation à Saint-Charles-Bromé. Nous offrons une gamme complète de services podiatriques tels que soins des pieds, orthèse plantaire, injection de cortisone, chirurgie mineure, radiographie ainsi que la podiatrie sportive. Renseignez-vous au 450-398-PIED, 398-7433, podiatrejoliette.com.
Jusqu'au 14 février, laissez-vous envoûter par la promo Coup de foudre du Centre culturel Desjardins. Deux billets pour $60 sur une sélection diversifiée de spectacles.
Mmh.
Réservez dès maintenant vos billets pour Stéphane Archambault, Elle, la pièce de théâtre Merci d'être venu, Marc Dupré, Pierre-Luc Pomerleau, Ballet Ouest de Montréal avec Ella, l'histoire de Cendrillon ou encore Le poète et son luth. Une sortie à deux, c'est magique. Dites oui à l'émotion sur spectaclejoliette.com.
CFNJ, avec vous partout via l'application CFNJ sur vos appareils Android et Apple.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Salut Jacques.
Salut Claude, j'ai failli pas venir.
Comment ça?
Ah, il fait soleil, il couche sur la bosse. Ça fait tellement longtemps.
À moins 3 présentement.
Non, c'est bon, ça fait du bien, ça. Oui. Faut pas le dire trop fort pour y faire peur.
Sondage léger qui vient tout juste de paraître. Christine Fréchette est dans cette course à la chefferie de la CAQ, là, qui est en avance. On donne 64% à Christine Fréchette. Donc, on a sondé parmi les partisans de la CAQ. Les membres, mais les gens qui voteraient pour la CAQ. 60% des caquistes qui estiment que Fréchette est la meilleure candidate pour succéder à Legault et on donne 19% seulement à Bernard Drinville. Et il faut dire que le sondage a été commandé par l'équipe de Christine Fréchette.
Oui, mais ça donne quand même le ton à ce qui se passe parce que comme on le disait aussi, là, c'est quasi le trois quarts du caucus là, qui est derrière elle.
Et même dans la région de Québec, c'est il la même chose. Là, Drinville, ça lève pas fort. Et Drinville qui veut, lui, interdire aux non-citoyens de voter le 12 avril pour élire le nouveau chef de la CAQ, qui va devenir de facto aussi, il faut le dire, le premier ministre du Québec.
Premier ministre ou premier ministre désigné jusqu'au scrutin du 5 octobre, si on ne devance pas. Actuellement, le règlement, ce que ça dit, c'est qu'il faut être âgé d'au moins 16 ans et domicilié au Québec depuis 6 mois pour pouvoir prendre sa carte de membre de la CAQ et choisir d'aller voter pour qui va être élu le ou la chef de la CAQ. Moi, je trouve tellement, Claude, c'est un faux débat au départ qui est lancé par le clan de Drinville. Puis je vais te dire pourquoi. Ça fait partie des règlements internes, ça, de la CAQ.
Depuis la fondation.
Depuis la fondation. Oui. Dans les autres partis, c'est sensiblement la même chose. Il y a peut-être eu au fil du temps quelques petites modifications, là, tout parti politique confondu.
Le Parti libéral a fait des modifications en 2024. Ils ont changé leurs règles. En fait, on peut devenir membre du Parti libéral, mais c'est réservé aux personnes qui possèdent la citoyenneté ou la résidence permanente.
Oui.
Et si on parle du PQ et de QS, ben c'est à peu près la même chose qu'à la CAQ. Il faut avoir 16 ans là, pour pouvoir devenir membre en règle. C'est à peu près tout. Là. La citoyenneté canadienne, la résidence permanente n'est pas nécessaire au PQ et à Québec solidaire.
C'est ça. Là, on s'aperçoit dans le clan Drinville que la soupe commence à refroidir drôlement. Donc, on cherche des poux. Hein? J'ai pas d'autre terme que ça.
Oui, oui.
J'en parlais avec nos collègues ici à la salle des nouvelles tantôt. J'ai de la difficulté à voir quand Drinville fait un scrum, là, qui parle aux journalistes ou qui donne un point de presse. C'est toujours d'attaquer Mme Fréchette. Je comprends pas qu'elle fasse pas telle affaire. Arrête de faire ça, Bernard, là. Puis dis-nous ce que toi tu vas faire si t'es élu chef. C'est de facto premier ministre.
C'est de l'arrogance et l'arrogance, c'est toujours négatif. Ça aide pas.
C'est parce que ça, là, c'est de la vieille politique. Mm-hmm. Tu sais, peut-être que c'est la stratégie qu'il a décidé d'adopter, mais c'est pas avec ça qu'il va ramasser des points de maïs, là.
Et pour en revenir à ce que Drinville propose pour le changement de règlement à la CAQ pour cette course à la chefferie, du côté de la CAQ, là, on dit que c'est pas possible de changer les règles actuellement. Ça prend un congrès de membres pour changer les règles. Il faut que ce soit voté au congrès de membres.
Un congrès de membres et les gens qui sont sur le parquet, il faut que ce soit voté aux 2/3.
Oui.
Alors, si jamais il y avait de la bisbille puis qu'il n'arrive pas à 2/3, ils peuvent pas amender le règlement.
Oublie ça, on partira pas en congrès là en pleine course à la chefferie.
Ben là, ça va encore plus mêler les cartes, ça n'a pas d'allure.
Surtout là, que c'est assez difficile dans la situation actuelle concernant le PEC aussi qui vient brouiller les cartes de cette course à la chefferie, qui vient mêler toutes les affaires. Et n'oublions pas que il y a aussi le troisième lien. Qui fait partie de cette course à la chefferie, qui est un enjeu important.
Comme on avait dit,
Fréchette qui s'est pas trop mouillée.
Comme on avait dit, ça fait longtemps, tu sais, l'idéal, ça aurait été de la proroger, la session. Parce que là,
Robert Jobot aller de l'avant, là, avec ce que Fléchette dit, oups, là, il a juste un pied.
Non, 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 mais t'sais, le gouvernement peut pas bouger sur rien.
Non, c'est là, ça, actuellement, parce qu'il y a deux personnes, là, qui sont en campagne pour aller chercher la chefferie. Moi, je trouve que c'est un faux débat. Il faut comprendre, c'est sûr et certain, là. Madame Fléchette a dit, ben, moi, je serais prête peut-être à ramener le PEC pour 2 ans.
Oui.
OK? Depuis que ça s'est sorti, là, qu'on l'abolissait et tout ça, on a vu plein de gens sur les écrans télé témoigner, des gens qui sont ici, installés chez nous, ils ont une résidence, ils ont une job, ils ont leurs enfants qui vont aux écoles, puis là, ils disent, on sait pas si on va pouvoir rester ou pas. Ça apporte de la sensibilité par rapport au public, monsieur et madame tout le monde.
Pas juste ça, ici, pense aux employeurs aussi, là.
Oui, d'une part, et si on est un bon leader ou une bonne leader, est-ce qu'on peut dire à un moment donné, ouais, peut-être qu'on pourrait ramener quelque chose. Donc, moi, je trouve que l'idée de Mme Fléchette de ramener le PEC pour 2 ans, là, tu sais quand ça commence, tu sais quand ça finit. T'as pas décidé d'arrêter ça à la dernière minute, là.
Ouais.
Tu comprends?
Mmh.
On joue pas dans des tas de merde, on joue avec des humains.
Ouais.
Tu sais? Alors, moi, je comprends très bien, ça aurait pu être Drainville qui aurait sorti ça. C'est elle qui l'a sorti.
Ouais.
Là, lui, il est pas content parce qu'il dit, écoute, si ces gens-là décident, il faut le comprendre, là, décident d'aller acheter 2 cartes puis de voter, je suis dans merde.
On passe maintenant à Charles Milliard qui sera sans doute couronné dimanche chef du Parti libéral du Québec.
On est en train de broder sa toge, là, oui.
Oui, c'est ça. Ça se termine demain, là, d'ailleurs, cette course à la chefferie officiellement. Là,
officiellement,
bon.
Aujourd'hui minuit.
Oui, oui, oui. Ben,
demain,
c'est ça.
Demain, on compile, mais ils n'auront pas à compiler longtemps. Non,
élu par acclamation, ça, c'est clair. Mais il va y avoir du chemin à faire pour Charles Milliard puisque, selon les plus récents sondages,
les gens ne connaissent pas.
64 % des Québécois qui savent pas c'est qui Charles
c'est
Milliard.
Ça. Mais là, en tout cas, il part un peu quand même, je dirais, vierge, là, tu sais, il y a pas trop de chaudron qui traîne avec lui.
Mm-hmm.
Alors, il a à se faire connaître et de voir un peu quelles sont ses politiques. Il va avoir une plateforme à bâtir.
Mais il y aura pas.
À se promener partout aux quatre coins du Québec.
J'ai l'impression qu'il y aura pas d'effet Pablo Rodriguez comme l'an passé. C'est-à-dire que lorsque Pablo a été couronné, a gagné cette course à la chefferie-là, a été élu chef du Parti libéral, ben là, on regardait les sondages et les libéraux se mettaient à monter, jusqu'à temps que l'automne passé éclate le
ben,
scandale.
C'est
là,
que
des brownies.
Pablo, c'est qu'on le veuille ou non, c'est une vedette, là.
C'est ça.
C'est quelqu'un
on le connaissait.
Il a été longtemps sur la scène fédérale.
Mais Charles Milliard, la majorité des gens, hein, 64 % connaissent pas Milliard, donc
c'est
il
ça.
Va falloir qu'il fasse beaucoup
c'est
de terrain pour
la
se faire connaître.
Exact, c'est la côte qui a remonté.
Et le problème, c'est chez l'électorat francophone, dans les régions. Est-ce qu'on est prêt à voter libéral? Je pense pas que pour le moment, ça attire beaucoup de gens. Là.
Moi,
c'est une lutte entre, dans les régions, c'est une lutte entre la CAQ, le Parti québécois et
dans certains cas,
le Parti conservateur.
Le Parti conservateur.
Ouais, ouais.
Moi, ce que j'ai hâte de voir, là, parce qu'il va dimanche, c'est son couronnement officiellement, je pense qu'on va tenter d'attirer les médias pour avoir un peu de couverture, parce que là, c'est la campagne de la CAQ qui mène
oui.
au niveau des médias. On va lui souhaiter qu'il se passe rien aux Jeux olympiques là,
oui.
pour se faire tasser. Mais dès lundi, il faut qu'il se mette au travail. Et moi, ce que je vais suivre, surtout de M. Milliard, c'est est-ce que là, il va répondre aux questions des journalistes? Est-ce qu'il va mettre de la viande sur l'os?
Oui.
Parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas dit grand-chose.
Non, vraiment pas, parce qu'il était seul, ou presque, ben en fait... Seul, on peut le dire, parce que le Beaucheron, comment il s'appelait?
Mario Roy.
Ça n'a pas fait ça a fait patate.
Ça donne rien de sortir de quoi puis de se noyer là-dedans
non
plus.
C'est sûr.
La stratégie qui est employée.
Merci,
mais ça va être intéressant.
Bon week-end, Jacques.
Même chose à toi.
Je remercie nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, Mathieu Bélanger, Régent Turgeon, Pierre Jubinville, François Morin et Jacques Plante que vous venez d'entendre. Ici Claude Fournel, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. On est en congé demain, on va se retrouver lundi 16h pour une autre édition de l'émission L'Anneau d'IRPM. Manquez pas entre-temps Nicolas Bellemare qui s'amène pour vous présenter dans les prochaines minutes de l'autre côté de l'actualité de 17h, le 5 à 7 trad de CFNJ. Salut, bye-bye!